La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Bonsoir à toutes et à tous. Et nous allons ce soir considérer, nous allons avoir deux sujets. Hier soir, c'est Pasteur Alain qui a présenté. Et ce soir, c'est moi qui aura l'occasion de partager deux sujets avec vous. Et le premier sujet que nous allons considérer est celui des fêtes. Nous faut-il observer les fêtes? Mais avant de ce faire, nous allons invoquer la présence du Seigneur. J'invite tous ceux qui le peuvent à se prosterner ou à incliner la tête. Éternel notre Dieu, merci pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir, en cet instant, une fois de plus, nous présenter devant toi afin de te réclamer cette bénédiction. Car nous aspirons à avoir une meilleure compréhension de ta parole afin de te laisser agir en nous par Jésus. Alors nous t'en prions, veuille déverser sur chacun d'entre nous ton Saint-Esprit et touche les lèvres aussi de ton serviteur afin qu'il puisse annoncer, Seigneur, ta parole avec puissance et force, pour la gloire de ton Saint-Nom. En Jésus, nous t'avons prié. Amen.
Amen.
Nous avons une quantité très importante de textes à considérer en ce soir. Et j'ai placé toutes les slides, tout le matériel sur les slides. Et d'ici demain matin, le matériel sera sur la page diapositive, donc vous pourrez le télécharger. L'apôtre Paul déclara en Galates, chapitre 1, versets 6 à 9, « Je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non qu'il y ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous annoncerait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » L'apôtre Paul était très emphatique. Il était très clair quant au fait que l'évangile qu'il avait annoncé aux Galates était l'évangile, le seul qui pouvait être et qui devait être reçu. Tout autre évangile, qu'il soit, et ce même annoncé par un ange, d'accord? Eh bien, ne devait pas être reçu. Et la personne qui apportait cet évangile devait être considérée comme étant anathème, c'est-à-dire maudit. En Apocalypse 14, verset 6, nous avons là le premier ange qui annonce son message. Et on nous dit qu'il porte l'évangile éternel, d'accord? Il annonce l'évangile éternel. Et nous savons que c'est le premier d'une série de trois messages qui prépare, d'accord, et précède le retour du Christ en gloire. Et nous voulons savoir en ce soir si l'observation des fêtes fait partie de cet évangile éternel, car il y a de nos jours des chrétiens qui pensent que les fêtes et leur observation sont une partie intégrante de l'évangile éternel. Et c'est pour cela que nous allons en ce soir considérer 12 raisons pour lesquelles les fêtes ne peuvent bibliquement pas faire partie de l'évangile éternel. OK? La première de ces raisons, c'est qu'il n'y a aucun verset de l'Écriture qui ne relie, qui relie les faits à l'Évangile. Vous pouvez lire de Genèse à Apocalypse, vous allez voir qu'il n'y a aucun verset qui relie ces faits à l'Évangile éternel. Ça, c'est la première des raisons, d'accord? La deuxième est que la loi, très précisément cérémonielle, de Moïse est un joug, ok? C'est ce que nous lisons en Acte 15, versets 1, 2, 5 et 10, où il nous est dit « Or, quelques personnes venues de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon l'usage de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Une grande contestation et une dispute s'étant donc élevées entre Paul et Barnabas et eux, il fut résolu que Paul et Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour traiter cette question. Mais quelques-uns de la secte des pharisiens qui avaient cru, verset 5, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les gentils et leur ordonner de garder la loi de Moïse. Verset 10. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en imposant aux disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons eu la force de porter? » Notez que ici, il y a deux points que ces faux docteurs voulaient imposer. La circoncision, premièrement, ainsi que la loi de Moïse, deuxièmement. Et lorsque Pierre a pris la parole, il déclara notamment qu'il s'agissait d'un joug que ni nos pères, ni nous n'avons eu la force de porter. Il nous faut savoir que les Hébreux étaient circoncis le huitième jour après leur naissance. Et bien que douloureux sur le moment, une fois l'acte de la circoncision pratiqué, les mâles hébreux vivaient sans difficulté, d'accord? Et Pierre dit que ni nos pères, ni nous n'avons eu la force de porter. Or, lorsqu'il déclare ça, lui-même, pendant qu'il déclare cela, il est lui-même circoncis en fait. Est-ce que c'est de la circoncision seulement dont il s'agit ici? Non, mes amis. La circoncision n'était en soi pas un joug. En fait, Pierre faisait ici référence à la loi de Moïse, la loi cérémonielle de Moïse, en fait. D'accord? C'est cela qu'il fallait pratiquer, qu'il leur avait été demandé de pratiquer et de faire. Et c'est ça qui était un joug, en fait. D'accord? Or, c'est dans cette loi cérémonielle de Moïse qu'ont été ordonnées les sept solennités qui sont présentes et que vous pouvez lire dans le Lévitique 23, d'accord? La troisième raison est que les tables de la loi qui ont été écrites par Dieu, eh bien, sont différentes, d'accord, du livre de la loi qui, lui, fut écrit par Moïse, d'accord? En Deutéronome 10, verset 2, il est dit « Et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. » Donc, notez que la seule écriture que nous avons et qui nous fut communiquée directement par l'écriture de Dieu, mes amis, ce sont les 10 commandements, d'accord? Dieu n'est pas passé par un être humain pour nous les donner, d'accord? C'est lui-même qui les a écrites. Maintenant, en Deutéronome 31, verset 26, il est dit « Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. » D'accord? Donc là, c'est un livre, ok? Le livre de la loi, ok? Et qui avait été écrit par Moïse, bien entendu. Et lui, il n'était pas placé dans l'arche de l'Alliance, contrairement aux 10 commandements. Mais il était placé à l'extérieur. Et comment? Comment était-il placé à l'extérieur? Comme un témoin contre toi. D'accord? Est-il dit. Je ne sais pas comment vous percevez cela, mais si vous allez au tribunal un jour et que vous avez quelqu'un qui témoigne contre vous, mes amis, cette personne-là n'est pas avec vous. Il y a quelque chose il y a un objectif à cela. D'accord? Or, ici, cela devait être placé comme un témoin contre eux. D'accord? Donc, il y a cette différence-là, en fait. Et encore une fois, les faits, je vais préciser maintenant, je ne vais pas encore donner de qualificatif, mais les faits qu'il y a dans la Bible, d'accord, ont été communiqués, promulgués et enseignés à travers la loi cérémonielle de Moïse et non à travers les 10 commandements. D'accord? Le quatrième point, c'est l'établissement tardif de la Pâque et la fin de la circoncision après la croix. En effet, la première Pâque eut lieu lors de la délivrance du peuple d'Israël et pas avant. Qu'avons-nous dit là? La première Pâque a eu lieu lors de la délivrance du peuple d'Israël et pas avant, mes amis. En effet, en Exode 12, versets 3 et 11, nous lisons « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites qu'au dixième jour de ce mois, ils prennent chacun un agneau ou un chevreau par maison de leur père. Un agneau ou un chevreau par maison. Et voici comment vous le mangerez, vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque, passage de l'Éternel. » D'accord? C'est à ce moment-là que cela a été institué. D'accord? Or, si on parle d'évangile éternel, cela signifie que ça a toujours existé. Pourquoi on n'en parle pas avant, en fait? Avant ce moment-là? C'est que ce n'est pas si éternel que ça, en fait. Son observation, de plus, l'observation de la Pâque nécessitait d'être circoncis. Il fallait être circoncis, mes amis. C'est-à-dire que les mâles hébreux devaient avoir une partie de leur prépuce, la peau de leur prépuce coupée, de manière à ce qu'ils puissent observer la Pâque. Okay? En effet, en Exode 12, verset 48, il nous est dit cela. « Et quand un étranger séjournera chez toi et voudra faire la Pâque à l'Éternel, que tout mâle qui lui appartient soit circoncis, et alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme celui qui est né au pays, mais nul incirconcis n'en mangera. » D'accord? Il fallait être circoncis. Donc, les personnes qui souhaitent observer les fêtes juives, notamment la Pâque, si ces personnes-là veulent être logiques avec elles-mêmes, elles doivent aussi se faire circoncire. Elles doivent aussi se faire circoncire. Mais vous savez quoi? La bonne nouvelle ici, c'est que Christ est notre Pâque, nous dit l'apôtre Paul. Et étant donné qu'il est notre Pâque, nous comprenons ce qu'il est dit en Colossiens 2, verset 11. En lui, est-il dit, je précise, en lui aussi, vous avez été circoncis, d'une circoncision faite sans main, en dépouillant le corps des péchés de la chair, ce qui est la circoncision de Christ. Donc, mes amis, si, lorsque Jésus arrive, c'est en lui que nous sommes circoncis, c'est-à-dire qu'il opère, ok, une transformation dans notre vie, d'accord? Il nous met à part pour son service, ok? Et il inscrit en nous sa loi. Si c'est en lui que nous sommes circoncis et que nous n'avons plus besoin de l'être dans la chair, est-ce que nous avons besoin d'aller observer une Pâque, une quelconque fête de Pâque? Non, encore une fois, car l'apôtre Paul dit aussi que Christ est notre Pâque qui a été immolé, d'accord? Donc, en Christ, nous avons cette Pâque. C'est en lui que nous avons cette réalité de la Pâque. La Pâque était une image, un symbole, d'accord? Une ombre. Et en Christ, nous avons la réalité. OK? Cinquièmement, nous avons l'enseignement de Paul en Colossiens 2, versets 14 à 17. OK? Lisons cela un peu. Colossiens 2, versets 14 à 17. Là, l'apôtre déclare, « Il a effacé ce qui était contre nous,
l'obligation des ordonnances qui s'élevait contre nous, et il l'a entièrement annulée en l'attachant à la croix, ayant dépouillé les principautés et les puissances, qu'il a publiquement exposées en spectacle, en triomphant d'elles sur cette croix. Que personne donc ne vous condamne au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'un jour de fête, ou de nouvelle lune, ou de sabbat, donc au pluriel. C'était l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps est en Christ. Notez ici que Paul dit, il parle d'effacer, qu'il a effacé. La loi de Dieu, la loi tout du moins que Dieu écrivit sur des tables de pierre, ne peut pas être effacée, mes amis. Vous n'effacez pas. Si vous voulez supprimer ce qui est marqué, ce qui est gravé sur la pierre, vous ne pouvez pas employer le mot « effacer », mais plutôt « briser », d'accord? Mais la loi que Moïse écrivit sur un support souple, elle ne peut pas être brisée, mais effacée. Donc, le simple fait que Paul emploie le mot « effacer » ici ne peut pas faire référence à la loi de Dieu qui a été écrite sur de la pierre, ok? Vous ne pouvez pas effacer ce qui est marqué sur la pierre, à moins que vous usiez la pierre et donc que vous détériorez le support. Ça, vous devez le briser. Mais par contre, ce qui peut être effacé, c'est ce qui est marqué à la surface, en surface, d'accord? Ça, vous pouvez l'effacer. Et c'est pour ça que ces deux termes se ressemblent. Vous avez effacé et surface, d'accord? Vous effacez ce qui est en surface et pas ce qui est dedans, gravé dedans, en fait, d'accord? Donc, le simple fait qu'ils disent « il a effacé » se réfère tout de suite à quelque chose qui est marqué sur un support en surface, donc à la loi de Moïse, d'accord? Et il est dit contre nous. Il a effacé ce qui était contre nous. Rappelez-vous ce que nous avons lu en Deutéronome 31, verset 26. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu. Et il sera là comme témoin contre toi. De quoi Paul faisait-il allusion ici? Aux dix commandements? Non! Au livre de la loi, mes amis, à des choses qui étaient écrites dans ce livre. OK? Je vous pose la question. Est-ce que Dieu, parce qu'il est dit que ici, il a placé un témoin contre toi, d'accord? Donc contre les enfants d'Israël. Vous savez, avant de poser la question, je vais juste faire une petite intro. Nous avons tendance à qualifier Dieu de bon Dieu. C'est ce qu'on dit généralement. Oh, le bon Dieu. Et en créole, on a cette expression bon Dieu. Okay? Donc, les francophones ont le bon Dieu, les Antillais, ceux qui parlent le créole, ils ont bon Dieu. C'est un bon Dieu. Pourquoi on l'appelle bon Dieu? Parce qu'il nous donne de bonnes choses. Okay? Je vous pose la question. Est-ce que Dieu ne donne toujours que de bonnes choses? Alors, ce n'est pas un bon Dieu, alors. Vous me dites non. Alors, c'est pour... attendez, je ne comprends pas. Vous dites que c'est le bon Dieu, vous êtes d'accord, mais vous dites qu'il n'a pas toujours de bonnes choses. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ce texte-là, alors. Ézéchiel 20, verset 25. « Aussi leur ai-je donné des statuts qui n'étaient pas bons et des lois par lesquelles ils ne devaient pas vivre. » Vous vous rendez compte? Dieu, à certains moments, a donné des choses qui n'étaient pas bonnes. D'accord? À certains moments, il a donné des choses qui n'étaient pas bonnes. D'accord? Pourquoi? Eh bien, parce que le peuple n'était pas encore prêt à recevoir, d'accord, ce qui était excellent. D'accord? Mais le point que je veux faire ici, c'est que, et nous allons l'approfondir tout à l'heure, parce que ce texte-là pourrait laisser penser que, ah oui, mais ça veut dire que c'est pas un bon Dieu, en fait. Non, non, non. Il faut comprendre que Dieu compose avec l'être humain et il fait en fonction des faiblesses de l'être humain et de la lenteur de l'humain à comprendre ses plans, en fait. Et c'est pour ça que, des fois, il instaure des choses, mais qu'après, il va enlever, d'accord? Et on l'a vu, sabbat, pour ceux qui étaient là, concernant la santé, notamment l'alimentation, sa loi. À la base, il y avait un régime qu'il avait prescrit, mais après, il a changé et après, il a voulu retourner à ce régime. Et étant donné que les enfants d'Israël, à deux reprises, n'ont pas voulu retourner à ce régime, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un régime de base, qui est le Lévitique 11, qui est un régime par défaut, d'accord? Mais cela n'était pas bon, en fait, ok? Après, Paul parle de manger et de boire, d'accord? Il faut savoir, lorsqu'il parle du manger et du boire, qu'il s'agit des repas et des boissons qui devaient être présentés dans le cadre des offrandes faites dans le sanctuaire terrestre, lesquelles étaient des types du Christ. En effet, en Nombre 28, versets 1 et 2, nous avons cette confirmation que la nourriture ainsi que des boissons étaient incorporées, étaient inclus dans le système cérémoniel. L'Éternel parla encore à Moïse et il dit en disant, verset 2, « Commande aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin de m'offrir en son temps mon offrande. » Et de quoi s'agit-il? « Ma nourriture pour mes sacrifices faits par le feu qui me sont d'une agréable odeur. » D'accord? Donc, il y avait de la nourriture qui était impliquée dans le système cérémoniel. OK? Et qu'en est-il concernant les sabbats? D'accord? Eh bien, notez que Paul dit ensuite que c'était l'ombre des choses qui devaient venir. C'était l'ombre des choses qui devaient venir. Mais le sabbat du septième jour a été donné bien avant la dispensation de la loi cérémonielle. Qui sont les premiers observateurs du sabbat sous la terre? Adam et Ève, bien évidemment. Et Dieu leur a donné le sabbat avant que le péché n'entre. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, je vous invite simplement à lire Genèse 1 et 2 et vous verrez qu'avant l'entrée du péché, en Genèse 3, nos premiers parents observaient déjà le sabbat. Et lorsque Dieu a institué tout cela, il a dit que tout était très bon. Ce n'est pas que c'était bof ou c'était bon, c'était très bien, très bon, d'accord? Donc, le sabbat du septième jour n'est pas une ombre. D'ailleurs, pour être une ombre, il faut qu'il y ait une réalité. Oh, de quoi est-il la réalité? Non, là, il s'agit des sabbats cérémoniels. En effet, le terme sabbat ne s'applique pas qu'au septième jour, mais il s'applique aussi à d'autres jours, d'accord? En effet, en Lévitique 23, verset 32, « Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Le neuvième jour du mois au soir, d'un soir à l'autre, vous célébrerez votre sabbat. » D'accord? Donc là, nous avons une ordonnance, d'accord? Une date qui est donnée, et Dieu dit que c'est un sabbat, d'accord? Donc, ce n'est pas le sabbat du septième jour dont il est parlé ici, parce qu'il dit que c'est le neuvième jour du mois, d'accord? On voit bien, avec cela, qu'il y avait des jours durant lesquels il y avait des cérémonies spéciales qui devaient avoir lieu, et ces jours-là étaient aussi qualifiés de sabbat au pluriel, d'accord? Donc, il ne s'agit pas du sabbat du septième jour, mais de sabbat cérémoniel, ok? Donc, l'apôtre Paul est clair. Lorsqu'il parle de cela, il fait allusion aux institutions qui sont arrivées à l'existence avec la loi de Moïse, à savoir les offrandes constituées de manger et du boire, des jours de fête, des nouvelles lunes et des sabbats, et je rajoute, cérémoniels. D'accord? La sixième raison, c'est l'enseignement toujours de Paul en Galates 4, versets 9 à 11 et versets 21 à 24. Lisons cela ensemble. Et maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retourneriez-vous encore à ces faibles et misérables rudiments auxquels vous voulez vous assujettir de nouveau? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains pour vous que je n'ai travaillé en vain à votre égard. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un de l'esclave et l'autre de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces deux femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï qui enfante des esclaves, et c'est Agar. D'accord? Et il va encore poursuivre avec l'autre femme qui est Sarah, d'accord? Je ne l'ai pas malheureusement mis sur la diapo. Remarquez que Paul parle ici des jours et des mois, d'accord? Des jours et des mois, c'est-à-dire les sabbats cérémoniels et les jours de nouvelle lune, d'accord? Vous pouvez lire le chapitre du Lévitique 23 dans son ensemble. Nous n'allons pas le faire maintenant, mais je vous invite à le faire. Et en Nombre 10, verset 10, il est dit « Et dans vos jours de joie, dans vos solennités et au commencement de vos mois, donc là c'est les nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes sur vos holocaustes et sur vos sacrifices de prospérité et elles vous serviront de mémorial devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » D'accord? Et nous avons aussi Nombre 28, versets 11 à 15, d'accord? Et cela nous parle aussi au commencement du mois, en fait, d'accord? Et nous voyons qu'il s'agit là des nouvelles lunes, d'accord? Donc, voilà de quoi il s'agit. Je ne vais pas prendre le temps de le lire parce qu'il y a d'autres matériels à considérer, mais je le donne en guise de référence supplémentaire, et ceux qui téléchargeront le PDF, vous pourrez l'avoir, prendre le temps de le reconsidérer à tête reposée, parce qu'il est très long. Ensuite, Paul parle des temps, il dit les temps, d'accord? Il faut savoir que le terme grec qui est traduit par temps signifie notamment les temps marqués, ok? Et cela se réfère aux fêtes annuelles du calendrier juif. En effet, en Nombre 28, versets 1 et 2, l'Éternel parla encore à Moïse en disant « Commande aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin de m'offrir en son temps. » D'accord? Donc, au temps marqué, en fait. Au temps, en son temps, le temps qui convient. « Mon offrande, ma nourriture pour mes sacrifices faits par le feu qui me sont d'une agréable odeur. » D'accord? Donc, là, c'est clair. OK? Et ensuite, Paul poursuit avec les années. D'accord? Il parle des années. De quoi s'agit-il ici quand il parle des années? Eh bien, il s'agit des années sabbatiques, d'accord? Telles que celles du jubilé, ok? Exode 23, versets 10 et 11. « Pendant 6 ans, tu sèmeras la terre et tu recueilleras le produit. Mais la 7e, tu la mettras en jachère et la laisseras reposer. Et les pauvres de ton peuple en mangeront les fruits. Et les animaux des champs mangeront ce qui reste. Tu en feras de même de ta vigne, de tes oliviers. » D'accord? Et nous pouvons voir la même chose en Lévitique 25, versets 8 à 12, que je vous donne aussi en référence, d'accord? Mais que nous n'allons pas prendre le temps de lire maintenant, car il est aussi long, d'accord? OK, passons à la septième raison, d'accord? Après avoir vu l'enseignement de Paul en Galates, c'est que la septième raison, eh bien, c'est que le travail autorisé par Dieu, et que le travail était autorisé par Dieu lors des nouvelles lunes avant l'entrée en Canaan. OK? Retenez bien ça. Le travail était autorisé par Dieu lors des nouvelles lunes avant l'entrée en Canaan. Pourquoi disons-nous cela? C'est parce qu'une fois arrivé en Canaan terrestre, nous comprenons avec Amos 8, versets 5 et 6, que les enfants d'Israël ne devaient pas travailler lors des nouvelles lunes. En effet, il est dit, « Qui dit, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous vendions le blé et le sabbat pour que nous ouvrions les greniers en diminuant les fats, en augmentant le sicle et en faussant la balance pour tromper, nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers et nous vendrons la criblure du froment. » D'accord? Là, on a un rapport du discours des méchants, ok, qui disent quand la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vaquer à nos affaires. Donc ils attendent que la nouvelle lune soit passée et ils méditent déjà sur le fait qu'ils vont travailler, qu'ils vont tromper les gens en fait. Donc cela montre en soi que lors des nouvelles lunes, notamment lorsqu'ils sont entrés en Canaan terrestre, les enfants d'Israël n'avaient pas pour habitude de travailler. OK? Or, il est intéressant de voir que avant d'entrer en Canaan terrestre, dans le désert, Dieu leur a demandé de travailler ce jour-là. En effet, en Exode 40, versets 1, 2 et 17, il est dit, Et l'Éternel parla à Moïse en disant, « Au premier jour du premier mois, tu dresseras la demeure du tabernacle d'assignation. » Verset 17. « Et au premier jour du premier mois, dans la seconde année, la demeure fut dressée. » D'accord. Et vous pouvez comparer aussi avec Nombre 1, versets 1 et 2, et 17 et 18. D'accord. Oui, il y a là un autre rapport que Dieu a demandé aux enfants d'Israël de travailler le premier jour du premier mois. Donc la nouvelle lune, en fait. Est-ce que Dieu a fait la même chose avec le sabbat du sixième jour?
Non.
Avant même de donner ses dix commandements depuis le mont Sinaï, sa loi éternelle, la loi de liberté, Dieu a fait les enfants d'Israël observer son sabbat par le biais de quoi? Le biais de la manne, mes amis. Ils devaient, pendant six jours, la manne tombait. D'accord? Le sixième jour, elle tombait en double proportion, notamment pour qu'ils puissent préparer le repas, le septième. Mais le septième jour, il n'y avait pas de manne qui tombait, mes amis. D'accord? Donc, Dieu n'a pas eu le comportement que Dieu a eu avec le sabbat du sixième jour. Il n'a pas eu ce comportement-là avec la nouvelle lune. D'accord? Avant l'entrée en Canaan terrestre et après l'entrée en Canaan terrestre, il a tenu à ce que les enfants d'Israël observent le quatrième commandement. Mais par contre, les nouvelles lunes, on voit qu'il a eu deux attitudes différentes. Avant d'entrer en Canaan terrestre, il leur demandait de travailler, mais une fois rentrés, les enfants d'Israël ne travaillaient pas. D'accord? Alors, comment comprendre cela? J'aimerais rajouter un texte que certains contestataires vont présenter pour dire que non, mais regarde Ésaïe 66, verset 23. Il est dit, « Et de mois en mois, c'est-à-dire et chaque nouvelle lune en fait, et de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » D'accord? Pour bien comprendre de quoi il s'agit ici, il faut lire Apocalypse 22, verset 2. D'accord? Si vous lisez Apocalypse 22, verset 2, vous allez comprendre. Car c'est chaque mois qu'on va se présenter devant Dieu, d'accord? Dans la cité sainte, la véritable Jérusalem, pour manger du fruit, parce que les arbres portent leurs fruits chaque mois, en fait, d'accord? L'arbre de vie, d'accord? Il porte son fruit chaque mois. Et donc, on ira s'y rendre tous les mois pour manger de ce fruit. Et notez que c'est lié à une localisation très précise. Alors, résumons ce point-là. À aucun endroit dans l'Écriture, il est fait mention que des gens se soient assemblés lors de la nouvelle lune avant l'existence de la nation d'Israël, d'accord? Notamment en Canaan terrestre. Par conséquent, la nouvelle lune était un signe pour que les Israélites s'assemblent afin de marquer le nouveau mois. C'était un signe pour ceux qui vivaient en Israël, d'accord? Mais lorsque la terre sera renouvelée, alors tous seront invités à Jérusalem, la nouvelle, pour adorer lors des nouvelles lunes et pour manger du fruit de l'arbre de vie, d'accord, qui est porté tous les mois. Donc ici, il est question de lieu, d'accord? La nouvelle Jérusalem sera le centre de l'univers, tout comme la Jérusalem terrestre était le centre de la terre pour l'adoration de Dieu. D'accord? Donc, lorsque vous considérez cette affaire de nouvelle lune, il vous faut comprendre que c'est lié à Jérusalem. Du moment que Christ est monté au ciel, la Jérusalem que le peuple de Dieu doit regarder n'est pas la terrestre, mais la céleste. Or, nous sommes encore sur terre. Et la Jérusalem que nous devons contempler, elle a changé de lieu, en fait. Ce n'est plus, tout du moins, ce n'est plus cette Jérusalem-là, ce n'est plus la même Jérusalem que nous devons regarder, puisque notre Seigneur, il est monté au ciel, d'accord? Et il officie dans le sanctuaire qui se trouve dans cette Jérusalem terrestre. Et donc, de ce fait, notre attention doit se porter vers cette Jérusalem-là. Or, nous sommes encore sur terre. Et nous ne pouvons pas, tous les mois, nous présenter pour aller prendre de l'arbre de vie. Donc, est-ce qu'il nous faut observer la nouvelle lune? Non! Tant qu'on est sur cette terre, non! Mais par contre, quand on sera au ciel, là, on va se rendre tous les mois et il y aura un but bien précis. Ce sera pour manger de l'arbre, du fruit de l'arbre de vie, d'accord, qui va nous régénérer, d'accord? Ok? Parce que il faut savoir que si Adam et Ève, Dieu leur avait interdit, il avait passé un ange pour qu'ils ne retournent plus manger du fruit de l'arbre qui était dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que s'ils continuaient à manger ce fruit, eh bien, ils allaient être immortels. Et ils allaient être des pécheurs immortels, des rebelles immortels. D'accord? Et on voit, ils ont mangé de ce fruit et ils ont vécu très longtemps, en fait. Mais nous, ça fait longtemps que notre humanité n'a pas mangé ce fruit-là. Et donc, on voit qu'on ne vit plus assez longtemps. Mais quand on va rentrer, monter au ciel, on va manger de ce fruit-là, en fait, de manière à pouvoir se régénérer, d'accord? On aura l'immortalité, c'est vrai, mais Dieu va continuer à fonctionner selon ce principe, d'accord? Tout comme Adam et Ève, qui avaient été créés parfaits, devaient manger de ce fruit, d'accord, pour garder cette santé-là, cette immortalité-là, je dirais, cette vigueur-là, eh bien, au ciel aussi, c'est pareil, d'accord? Il y aura un moment bien déterminé pour pouvoir manger de ce fruit, et ce sera lors des nouvelles lunes. Mais maintenant, nous ne sommes pas au ciel, mes amis. D'accord? Le huitième point, c'est l'exemple de Paul à Corinthe. Considérons acte 18, verset 21. Il est dit, « Et il, donc Paul, prit congé d'eux en leur disant, « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem, mais je reviendrai vous voir s'il plaît à Dieu. » Et il partit d'Éphèse. Voici un texte que beaucoup de personnes utilisent pour dire que oui, mais vous comprenez mal ce que Paul dit en Colossiens 2 et Galates 4. Regardez, il dit qu'il faut absolument qu'il observe la fête et tout. Il faut absolument qu'il célèbre, tout du moins, la fête. Voilà. Donc, Paul observait les fêtes comme tous les chrétiens et compagnie et compagnie. Mes amis, tout texte ôté de son contexte devient un prétexte. Vous savez ça? Si vous ne le savez pas, il faut l'apprendre. Tout texte ôté de son contexte devient un prétexte. D'accord? Je vous pose la question. Combien de temps Paul est-il resté à Corinthe? Acte 18, verset 11, nous le dit. Et il y demeura donc un an et six mois enseignant parmi eux la parole de Dieu. Pour les rester un an et six mois. D'accord? Mes amis, d'après Exode 23, versets 14 et 17, chapitre 34, verset 24, ainsi que Deutéronome 16 et encore d'autres textes, il y avait trois fêtes qui nécessitaient que les enfants d'Israël effectuent un pèlerinage à Jérusalem. Il y avait trois fêtes par an. D'accord? Trois fois l'année, les hommes ainsi que les garçons. En priorité, c'était nécessaire. Les femmes, si elles pouvaient, mais les hommes et les garçons, d'accord, devaient se rendre à Jérusalem, d'accord, pour observer ces trois fêtes-là. Et nous savons que ces fêtes s'étendaient sur une année. Or, Paul demeura un an et six mois à Corinthe. Et mes amis, Corinthe n'est pas Jérusalem. Corinthe n'est pas Jérusalem. Donc, pendant un an, Paul ne s'est pas rendu du tout à Jérusalem, en fait. Paul n'a pas observé les fêtes. Pendant un an et six mois, Paul ne l'a pas fait. Il y avait trois pèlerinages qu'il devait faire. Il ne les a pas du tout faits. Ça, c'est un premier point qu'il faut souligner. Et que, malheureusement, ceux qui défendent cette théorie-là ne soulignent pas. Pourtant, c'est le contexte. Il ne faut pas avoir peur du contexte. Mais alors, une fois qu'on a vu ça, on pourrait se poser la question, mais alors pourquoi Paul a-t-il dit qu'il faut absolument qu'il célèbre la fête? Pourquoi Paul devait-il se rendre à Jérusalem? Prêtons attention à ce qu'il déclara à ceux auprès de qui il demeura un an et demi, un an et six mois, c'est-à-dire aux Corinthiens. Notez ce qu'il déclara à ces personnes avec qui il est resté un an et six mois. 1 Corinthiens 9, verset 20. « J'ai été comme juif avec les juifs afin de gagner les juifs, comme sous la loi avec ceux qui sont sous la loi afin de gagner ceux qui sont sous la loi. » D'accord? Remarquez que Paul, il a été comme juif avec les juifs afin de gagner les juifs. Donc, je vous pose la question, pourquoi, c'est très simple, pourquoi Paul est-il allé à Jérusalem? Pourquoi est-il allé célébrer cette fête-là? C'était pour aller gagner sa nation, mes amis. C'était pour aller gagner les juifs, d'accord? C'était pour aller gagner les juifs, mes amis, tout simplement. Il ne l'a pas fait dans un but salutaire, dans un but de pouvoir, mais dans un but d'aller gagner les juifs. Parce qu'il faut savoir que, rappelez-vous, c'est à ce moment-là que vous avez tous les mâles, hommes, garçons, adultes et garçons, qui viennent à Jérusalem. Là, vous avez toute la population. Donc, si vous voulez faire un travail d'évangélisation, vous allez où? Vous allez au fond d'une forêt? Non, mes amis, vous allez là où il y a du monde. Vous allez là où il y a du monde. Et c'est pour ça que Paul a dit qu'il fallait absolument qu'il aille célébrer cette fête. Parce que c'est là qu'il allait rencontrer les Juifs, d'accord? Donc, il fallait qu'il fasse cette célébration de manière à pouvoir entrer en contact avec les Juifs, en fait. Parce qu'il a été comme Juif avec les Juifs, afin de gagner les Juifs. C'était ça son objectif, mes amis. Et ce même Paul-là, je vous le dis aussi, je n'ai pas la référence, mais il a aussi fait Timothée se circoncire de manière à pouvoir gagner les Juifs. Et pourtant, on sait que la circoncision, il en parle d'une manière qui n'est pas recommandable. Mais il l'a fait à cause des préjugés, des préjugés que les Juifs avaient. D'accord? Donc, tout cela afin de pouvoir gagner les Juifs. La deuxième raison, c'est que le sabbat du septième jour, d'accord, n'est jamais qualifié de juif. Le sabbat du septième jour n'est jamais qualifié de sabbat juif. D'accord? Sous l'Ancien Testament, les fêtes sont présentées comme étant celles de l'Éternel. En effet, en Lévitique 23, versets 2, 4, 37 et 44, il est dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, les fêtes de l'Éternel que vous publierez comme de saintes convocations, ce sont là mes fêtes. Voici les fêtes de l'Éternel, verset 4, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. » Verset 37, « Telles sont les fêtes solennelles de l'Éternel que vous publierez comme de saintes convocations pour offrir à l'Éternel des sacrifices faits par le feu, des holocaustes, des offrandes, des sacrifices et des libations, chaque chose à son jour. » Et verset 44, « Ainsi Moïse déclara aux enfants d'Israël les fêtes de l'Éternel. Okay? » Et vous pouvez comparer aussi avec Juges, chapitre 21, verset 19, 2 Chroniques 2, verset 4, Esdras 3, verset 5 et Osée 9, verset 5. Dans tous ces versets-là, il nous est parlé des fêtes de l'Éternel. Et ce sont ces versets-là dont se saisissent les observateurs des fêtes. Vous dites, regardez, ce sont les fêtes de l'Éternel. Donc, ça appartient à Dieu, il nous faut les célébrer. Je ne nie pas le fait que Dieu a dit que ce sont ses fêtes, les fêtes de l'Éternel, d'accord? D'ailleurs, il a dit la même chose concernant la Pâque, en Nombre 28, verset 16. « Et au 14e jour du premier mois, on célébrera la Pâque à l'Éternel, d'accord? » Donc, c'est celle de l'Éternel, ok? C'est à l'Éternel, d'accord? On ne peut pas nier ce fait-là. Sous l'Ancien Testament, je précise. Pourquoi je précise cela? C'est parce que, mes amis, sous le Nouveau Testament, les fêtes sont systématiquement présentées comme celles des Juifs et non plus celles de l'Éternel. En effet, Jean 5, verset 1 nous est dit, « Après cela, venait une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. » Jean 2, verset 13, « Et la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. » Jean 6, verset 4, « Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. » Et Jean 11, verset 55, « Or la Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. » Jamais, mes amis, vous allez voir la Pâque de l'Éternel sous le Nouveau Testament ou la fête de l'Éternel. Le langage a changé sous le Nouveau Testament. Ce qui n'est jamais le cas en ce qui concerne le sabbat du septième jour, qui n'est jamais qualifié de sabbat juif. D'accord? Le sabbat du septième jour n'est jamais qualifié de sabbat juif, mais il est toujours qualifié de sabbat de l'Éternel. En effet, Exode 20, verset 10, « Mais le septième jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Et vous pouvez comparer cela avec Lévitique 23, verset 3 et Deutéronome 5, verset 14. Et sous le Nouveau Testament, mes amis, ça ne change pas. Parce que Jésus, qui est Jésus? Qui est Jésus? Le Fils de Dieu, d'accord. Mais c'est aussi lui le chef de la religion chrétienne, n'est-ce pas? On peut dire ça comme ça. Il est en fait le centre même. D'ailleurs, les chrétiens s'appellent des chrétiens, c'est par rapport à Jésus, c'est pour marquer leur appartenance à Jésus. Je vous pose la question ici. Combien d'entre vous, ce soir, sont chrétiens? Levez la main, que je puisse voir. Combien sont chrétiens ce soir? OK. Mes amis, si vous êtes chrétiens, notez ce que votre maître a dit. Notre maître a dit. Matthieu 12, verset 8. Car le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Ou seigneur, si vous préférez. Maître ou seigneur, c'est la même chose. Il est le maître, le seigneur du sabbat. Donc, voyez-vous, il ne s'agit pas de quelque chose qui appartient aux Juifs, d'accord? Rappelez-vous, Adam et Ève l'ont observé avant même l'existence d'un quelconque Judas qui a donné son nom à la nation juive, d'accord? Et même avant l'existence d'un quelconque Abraham, bien avant l'entrée du péché, d'accord? Donc, le sabbat appartient, c'est pour l'humanité, il a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et Jésus est le maître même du sabbat, d'accord? Il n'y a aucun verset permettant d'arriver à la conclusion selon laquelle le sabbat du septième jour est le sabbat des Juifs. D'accord? Et si l'on cite Jean 19, verset 42, notez qu'il indique simplement et uniquement que le jour de préparation est celui des Juifs, pas le sabbat du septième jour. OK? Donc, je lis cela en guise de clarification. Dixième point, c'est que la fin des fêtes avait été annoncée. En effet, en Osée 2, verset 11, Dieu avait dit « Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes et ses sabbats et toutes ses solennités. » Dieu avait annoncé ça. Et Paul nous l'a dit en Colossiens 2. Ce que Osée annonce après, a prophétisé ici, Paul l'a enseigné. Il avait dit que ces choses allaient cesser. Et c'est Christ qui les a fait cesser lui-même à la croix, mes amis. D'accord? Parce que Christ est la réalité, d'accord? Toutes ces choses étaient des symboles qui annonçaient le Christ. Et, ou devrais-je dire, or, il n'y a pas un seul verset de ce genre concernant le sabbat du septième jour. Mais par contre, pour les fêtes, oui. Onzièmement, Dieu change les temps, mais jamais il ne change sa loi. Dieu change les temps, mais jamais il ne change sa loi. En effet, lisons d'abord un texte. Daniel 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le souverain. Il opprimera les saints du souverain et pensera à changer les temps et la loi et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ici, on nous parle d'une puissance qu'est la papauté, la puissance papale, la Rome papale. D'accord? Où on parle du fait qu'on annonce qu'elle allait opprimer les saints du souverain, c'est-à-dire qu'elle allait persécuter ceux qui voulaient adorer conformément à la parole de Dieu, mais aussi qu'elle allait penser à changer les temps. Et le mot « temps » ici est traduit à partir de « Ziman ». D'accord? Ziman. Or, c'est intéressant de voir que la papauté voulait changer les temps et la loi. Il n'y a pas que la loi. Elle voulait changer les temps aussi. D'accord? Notez Daniel 2, verset 21. Parce que beaucoup de gens, et si on revient à Daniel 7, verset 25, beaucoup de gens se servent de ça pour dire que oui, mais regardez, la papauté, c'est elle qui a changé les temps. Donc, si les chrétiens n'observent pas les fêtes aujourd'hui, c'est à cause de la papauté, etc., etc. Et pour eux, le fait de changer ça, c'est purement quelque chose du diable, en fait. D'accord? Donc, quand ils lisent « et pensera à changer les temps », pour eux, eh bien, changer les temps, ça vient du diable. OK? Ça ne peut pas être Dieu. OK? Alors, je ne suis pas ici en train de donner raison à l'œuvre de la papauté. D'accord? Et d'ailleurs, je n'ai même pas défini, et je ne vais pas nécessairement m'entrer là-dedans, mais définir de quoi de quel temps il s'agit ici. Mais juste dans le principe, notons maintenant Daniel 2, verset 21. Et c'est lui qui change, et là c'est, il se réfère à Dieu, et c'est lui qui change les temps et les moments. Et là, moment est traduit à partir de Ziman, d'accord? Qui dépose les rois et qui les établit, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. D'accord? Notez que là, c'est Dieu qui change les temps ou les moments. C'est-à-dire Ziman, c'est le même terme en fait. Donc, ce n'est pas une œuvre du diable en fait que de changer les temps. Puisque Dieu lui-même le fait, mes amis. D'accord? Le problème, c'est que quand c'est l'homme qui le fait, mais quand c'est Dieu qui lui-même change les temps, personne ne peut rien dire. Par contre, notez une chose, c'est que jamais vous verrez qu'il change sa loi. Jamais vous verrez qu'il change sa loi. Dieu peut changer ses temps, mais contrairement au pape, il ne peut pas changer sa loi, car il ne change pas, d'après Malachie 3, verset 6. Donc, quels que puissent être les temps mentionnés en Daniel 2, verset 25, ou Daniel 2, verset 21, ou Daniel 7, alors, je me suis embrouillé, je vais reprendre ma phrase parce que, quels que puissent être les temps mentionnés en Daniel 2, verset 21, ou Daniel 7, verset 25, ces derniers, mes amis, ne sont pas inclus dans l'Évangile, d'accord? Car celui-ci est éternel, il ne change pas, tout comme la loi de Dieu, d'accord? Vous ne pouvez pas incorporer quelque chose qui change dans ce qui est éternel, mes amis, d'accord? C'est pour cela que l'Évangile et la loi de Dieu qu'il a écrite, ces 10 commandements, vont ensemble, car ils ne changent pas. Par contre, les temps, eux, qui changent, ne peuvent pas être dedans, d'accord? La douzième et dernière raison, c'est que l'observation des fêtes ne peut se chevaucher, et encore moins depuis 1844. Nous savons, de par la prophétie de Daniel 8, verset 14, que la période de temps, les 2300 soirs et matins, aboutit en 1844. Et que cela est le commencement pour le jour antitypique des expiations. Or, quand nous regardons le type, nous voyons que les Juifs n'observaient pas deux fêtes en même temps. Ils n'observaient pas la Pâque et puis la fête des pains sans levain en même temps. D'accord? Ou la fête des pains sans levain et la fête des trompettes. Non, mes amis, les Juifs observaient une fête à la fois. Or, aujourd'hui, nous sommes dans le jour antitypique des expiations, mes amis. Nous sommes dans le jour antitypique des expiations. Par voie de conséquent, on ne peut pas observer d'autres fêtes. Non. Impossible. Donc, en résumé, et vous avez le résumé qui s'affiche ici, les fêtes juives n'appartiennent pas à l'Évangile éternel, car aucun verset ne les relie à l'Évangile. 1. 2. La loi cérémonielle de Moïse est un joug. 3. La table de la loi fut écrite par Dieu, contrairement au livre de la loi qui fut écrit par Moïse. 4. L'établissement tardif de la Pâque et la fin de la circoncision après la croix. 5. L'enseignement de Paul en Colossiens 2, 14 à 17. 6. L'enseignement de Paul en Galates 4, versets 9 à 11 et 21 à 24. 7. Le travail autorisé par Dieu lors des nouvelles lunes avant l'entrée en Canaan. 8. L'exemple de Paul à Corinthe. 9. Le sabbat du septième jour, qui n'est jamais qualifié de juif. 10. Leur fin qui fut annoncée. 11. Dieu change les temps, mais jamais sa loi. Et 12. Leurs observations ne peuvent se chevaucher, encore moins depuis 1844. En conclusion, mes amis, que pouvons-nous dire, arrivé ici? Acte 15, je vous rappelle, au verset 10, dit « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en imposant aux disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons eu la force de porter ?» Voilà ce que l'apôtre Paul déclara. Ni nos pères, ni nous n'avons eu la force de porter. L'apôtre Paul déclara quant à lui en Galates 5, verset 1, « Tenez-vous donc ferme dans la liberté dont Christ vous a rendu libre et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. » Sous le joug de la servitude, mes amis. Nous devons regarder maintenant à la Jérusalem céleste, d'accord? La Jérusalem céleste. Et la Jérusalem céleste a été symbolisée par la femme libre qui était Sarah, d'accord? Et là, il n'y a plus ce joug, mes amis. il n'y a plus ce joug. On ne peut pas observer les fêtes et, prétendre qu'on se met sous le joug du Christ, mes amis. Ce n'est pas possible. Parce que les fêtes appartiennent à l'ancienne alliance. Or, Jésus nous dit, en Matthieu 11, versets 27 à 29, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et nul ne connaît le Père que le Fils, et nul ne connaît le Père que le Fils. » D'accord? Et celui à qui le Fils aura voulu le faire connaître. Verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Combien d'entre nous ici ce soir voulons accepter cette invitation, c'est-à-dire venir à Christ, car nous sommes fatigués et chargés, afin d'être soulagés et de se charger de son joug? Mes amis, je ne sais pas pour vous, mais moi je le veux. Et Christ nous demande de déposer à lui, qui nous demande de déposer à lui toutes les œuvres que nous faisons pour tâcher de gagner notre salut. Mes amis, le salut ne se gagne pas par des œuvres. Le salut ne se gagne pas par des œuvres, encore moins par l'observation des fêtes juives. Et toutes celles et ceux qui, par le passé, que ce soit sous l'Ancien Testament, même après la croix, et l'apôtre Pierre l'enseigne, et jusqu'à maintenant, qui ont enseigné et qui enseignent ces choses-là, mes amis, c'est dans l'espérance de gagner leur salut, le salut par leurs œuvres. Or, Christ donne le salut gratuitement, mes amis. Et il nous demande simplement de venir à lui et de recevoir ses instructions. Moi, je le veux. Et si vous le voulez avec moi, c'est-à-dire venir à Christ et recevoir ses instructions et déposer tout fardeau, je vous invite à vous prosterner et à demander à Dieu de nous aider. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour la liberté que tu nous donnes en Jésus. Non pas une liberté pour vivre dans le péché, c'est-à-dire dans la transgression de ta loi, de ta sainte loi que tu nous as communiquée, révélée, mais une liberté pour que nous puissions, eh bien, effectivement, ne plus être asservis au péché. Et Père, nous n'avons plus... Tu nous as mis dans cette liberté afin que nous puissions te glorifier. Et tu n'attends plus de nous que nous puissions nous charger de toute espèce de rite, de cérémonie, d'observation qui avait été donnée pour annoncer simplement la venue de Jésus, Père. Et Christ étant venu, nous avons la réalité et en lui nous avons toutes choses. Alors aide chacun d'entre nous à avoir les yeux fixés sur Jésus et non à être focalisé sur des types et des ombres, des images. Bénis, Père, chacun d'entre nous ici ce soir et que ta volonté soit faite dans nos vies. Nous t'en prions en Jésus et pour ta gloire. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.